Bonjour David, bonjour à tous. En matière agricole, le foncier est rare et convoité. C'est pourquoi la SAFER doit trancher, ce qui a été le cas en faveur de Marion Bio à Saint-Amand-sur-Sèvre. Bientôt la retraite pour Patrick Pavageau, le directeur de la maison familiale rurale de Montcoutant-sur-Sèvre peut se féliciter du travail effectué. La 22e édition de l'Arjoyette cette fin de semaine et week-end à Luché-Touarcé, un festival qui allie toujours art et humour. Les joueurs de Palais ont rendez-vous ce samedi à Mauléon pour la Coupe des Deux-Sèvres en individuel. Quant à la météo, les nuages seront un peu plus présents cet après-midi. Le garde des Sceaux à Bressuire ce mardi à quelques jours des européennes. À l'invitation du député de la 3e circonscription des Deux-Sèvres, Jean-Marie Fievé, Éric Dupond-Moretti sera à la salle des congrès de Bressuire à partir de 19h ce soir. Le ministre de la Justice entend convaincre les éventuels indécis et galvaniser les troupes à quelques jours du scrutin. Et puis à propos des européennes, sachez que la ville de Thouars met un service de transport gratuit à disposition des personnes à mobilité réduite qui ne pourraient se rendre à leur bureau de vote dimanche. Pour bénéficier de ce service, il convient de s'inscrire rapidement en mairie. Pas toujours facile de retenir tel ou tel exploitant plutôt qu'un autre, mais c'est bien là l'une des missions de la SAFER, qui en tant qu'opérateur foncier polyvalent doit donner son avis pour l'attribution des terres agricoles souvent convoitées. La preuve par la démonstration à Saint-Amand-sur-Sèvre où deux agriculteurs souhaitaient racheter 35 hectares de terre à un exploitant qui cédait sa ferme pour prendre sa retraite. Le premier acquéreur voulait agrandir sa ferme voisine, la deuxième, hors cadre familial, souhaitait la reprendre après y avoir travaillé pendant 6 mois. C'est le projet de cette dernière en élevage ovin qui l'a emporté. Le président de la SAFER des Deux-Sèvres, Patrice Coutin.
Quand il y a plusieurs candidats, puisqu'aujourd'hui le foncier c'est une denrée rare et non renouvelable, donc il sollicite effectivement beaucoup de convoitises. Lorsque la SAFER prend une position sur tel ou tel candidat, elle doit tout simplement justifier ses choix. Et par rapport à ça, eh bien évidemment que nous avons l'installation. L'installation est importante, disons, sur un territoire comme les Deux-Sèvres. Ensuite, nous n'oublions pas aussi restructuration des exploitations agricoles. Il y a aussi des exploitations pas si pourvues au niveau surface ou moyenne production qui ont aussi besoin d'être consolidées. Donc ces critères-là. Et derrière tout ça, bien entendu, il y a le projet effectivement des candidats, bien sûr, qui compte. Ils nous arrivent régulièrement aussi de pouvoir suivre un dossier. On met avis favorable sous réserve d'installation dans un délai qui peut courir sur quelques mois. Voilà.
C'est ainsi que Marion Billot a pu s'installer et bénéficier d'un dispositif de soutien qui lui a permis d'alléger son investissement foncier à la Bicoulière de Saint-Amand-sur-Sèvre. Explication du technicien SAFER, Martial Créon.
La SAFER avait remarqué que pour si on voulait installer des jeunes, il y avait souvent trop de capitaux au départ pour les jeunes. Et c'était un frein, voire parfois ça empêchait les installations parce qu'il y avait les bâtiments achetés, le cheptel acheté, le matériel acheté, parfois une maison. Et puis quand il fallait rajouter 30 ou 40, 50 hectares de terre, c'était impossible, ça ne pouvait pas se faire. Donc l'idée, c'était en fait de différer une partie des investissements. Et pour le faire, la SAFER a la capacité d'acheter les terrains. Donc on a acheté les terrains, ce qu'on appelle du portage, et de dire, on vous promet de revendre ces terrains dans 5 ans, dans 10 ans, quand vous aurez fini de rembourser certains de vos emprunts. On le fait que pour les jeunes.
Pour éviter la spéculation des terres, la SAFER a acheté pour 150 000 euros les 35 hectares convoités. L'éleveuse pourra les racheter lorsqu'elle aura la capacité d'investir à nouveau. Marion Billot.
Ça permettait d'enlever une grosse épine du pied quand on est jeune, qu'on s'installe près de 150 000 euros de foncier. Enlever cette grosse enveloppe, ça permet justement de favoriser l'installation et pour justement pérenniser l'élevage et puis donner à manger aux brebis. On travaille avec 2 races, une centaine de brebis romanes et une centaine de brebis vendéennes qui sont toutes en monte naturelle avec 2 périodes d'agnelage qui me permet d'avoir des agneaux pour Pâques et des agneaux pour Noël.
Renouvellement de génération assuré avec cette exploitante qui a par ailleurs bénéficié du soutien de l'OVICAP, le pôle ovin et caprin de la CAVAC, qui lui permet d'étaler le financement de son cheptel de 237 brebis sur 5 à 6 ans. Reportage signé Jacqueline Pinon. Patrick Pavageau, le directeur de la maison familiale rurale de Montcoutant, sur le départ à la retraite. Lors de son discours récemment au moment de l'inauguration des nouveaux locaux et des agrandissements de l'établissement, Patrick Pavageau a annoncé son grand départ après 20 ans de bons et loyaux services au sein de la MFR de Montcoutant. À un peu plus de 62 ans, Patrick Pavageau tire le bilan de son aventure montcoutantaise marquée par un développement assez remarquable.
L'heure de la retraite approche, alors même si dans ma tête j'y ai pas encore trop pensé, mais je laisse ma place effectivement à partir du 31 août. C'est-à-dire qu'au 1er septembre, un nouveau directeur sera en place à Montcoutan. Je ne peux pas vous donner son nom puisqu'il n'est pas encore complètement recruté. Et je transmettrai le flambeau, comme j'ai essayé de conduire depuis 2004 que je suis là, comme j'ai toujours su le faire et essayer de le faire pour surtout développer la maison familiale de Montcoutan, puisque quand je suis arrivé en 2004, nous étions 8 salariés. Aujourd'hui, nous sommes 23. Il y avait 62 élèves. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 200 élèves. C'est une grande fierté. C'est la troisième inauguration que je fais en 20 ans ici à Montcoutan, à chaque fois pour des agrandissements ou toujours pour les jeunes, ces belles salles de travaux pratiques, puériculture. Je crois qu'il n'y en a pas d'autres aussi belles comme ça dans le département. Et pour les jeunes, c'est vraiment super. J'ai toujours, ma mission a été toujours pour les jeunes. Ma volonté a toujours été de faire grandir ces petits jeunes qui nous arrivent et en faire des futurs adultes de demain.
Patrick Pabajo va donc savourer ses dernières semaines à la tête de la MFR de Montcoutan-sur-Sèvre avant de prendre sa retraite. Dans le cadre du festival A de Parthenay, quatre producteurs d'eau potable des Deux-Sèvres proposent un spectacle à la ferme de Saint-Marc-la-Lande. L'idée étant de donner un spectacle sur la ruralité et de profiter de ce moment pour sensibiliser les habitants à l'impact des modes de consommation. Un spectacle qui sera joué à deux reprises, ce mardi et demain, mercredi soir, par la compagnie Le Compost. Il porte le dossard 22. C'est le festival de l'Argeoyette qui s'installe à la base des Adillons de Luché-Touarçay ce vendredi, samedi et dimanche. La 22e édition ne déroge pas à sa ligne directrice de l'art et de l'humour. L'Argeoyette à son monsieur loyal, Serge Retailleau, qui détaille une affiche très charpentée au micro-colline de notre correspondant toi, c'est Dominique Hérault.
Une édition qui est très fournie. On a 13 compagnies, 19 spectacles, avec une dimension un peu internationale, puisqu'on accueille 3 compagnies qui viennent du Chili, du Brésil et d'Espagne, donc c'est quand même pas mal. Il y a aussi la présence de compagnies assez prestigieuses comme Hannibal et ses éléphants, là, qui est une compagnie de théâtre forain qui tourne depuis 25 ans au niveau français et international. Cette année, c'est très clown. En commençant déjà au niveau de l'inauguration par un duo d'une compagnie qui vient de Dijon qui s'appelle Super Super. Et c'est des mimes qui vont jouer à un spectacle qui s'appelle Plouf et Replouf. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ils sont devant une piscine d'enfants d'un mètre de diamètre. Ils vont nager là-dedans. Puis sinon il y a tous les registres du spectacle vivant, du cirque, de la danse, avec de la musique évidemment, fanfare, et puis le bal du samedi soir avec Transbal Express, la musique du monde, c'est vraiment très enlevé.
Très convivial, le rendez-vous de l'Argeoyette est taillé sur mesure, notamment pour les familles, mais aussi pour toutes celles et ceux qui veulent se dérider. Le pique-nique du dimanche midi, où l'on peut apporter son panier ou profiter de la restauration sur place, sera animé lui aussi par deux compagnies et une fanfare angevine avant les théâtres de rue du dimanche après-midi. Sur le plan financier, chacun donne ce qu'il veut et ce qu'il peut. Serge Retailleau.
Depuis qu'on est sur la base de loisirs, donc on ne fait pas payer l'entrée et on demande au public de participer financièrement, en expliquant d'ailleurs ce que ça coûte, parce que c'est que des spectacles professionnels, les artistes qui sont là, ils vivent de ça. En même temps, c'est une solution qui permet d'ouvrir à tout le monde, parce que bon, il y a aussi des gens qui n'ont pas forcément des gros moyens et qui viennent quand même. Là, cette année, on a 19 spectacles avec un coût moyen de 1 600 euros.
1 600 euros par spectacle en moyenne, soit un montant total de 32 000 euros pour la partie artistique seule, sur un budget global de 50 000. Fort heureusement, le festival est soutenu par la région, le département des Deux-Sèvres, la communauté de communes du Touarçay et la petite commune de Luché. Des entreprises sponsorisent aussi ce rendez-vous, mais il faut compléter avec la bonne volonté des spectateurs, qui deviennent donc des acteurs d'une certaine manière. Concernant le programme complet, on peut le retrouver sur le site internet Argeoyette 2024, reportage de Dominique Hérault. Le festival Le Jazz bat la campagne de l'association gâtinaise Le Carrugue fait étape cette fin de semaine à Montcoutan-sur-Sèvre. La scène installée place de la mairie accueillera en effet l'américaine Crystal Thomas avec sa voix puissante et profonde des chanteuses de blues du sud des États-Unis.
Honey, I love to go to parties.
Blues ce vendredi à Montcoutant-sur-Sèvre avec la chanteuse américaine Crystal Thomas, avec le prestigieux Living Blues Award de 2020 à son actif. Cette pépite commence à se faire connaître en Europe, à Hong Kong ou encore au Japon. Belle soirée en perspective à partir de 19h30 vendredi, d'autant plus que c'est gratuit. La première partie sera assurée par Lil Henry, un bluesman du Bocage Bressuré. Sur scène, ce dernier s'accompagne d'une guitare des années 20 et d'un banjo des années 50. Et pour être plus près d'un son authentique, il chante avec un micro des années 40. La compagnie Zygomatic, de nouveau au Festival d'Avignon, après 300 représentations en 3 ans et un succès au Festival d'Avignon en 2021, 2022 et 2023. La compagnie Zygomatic donnera son spectacle Climax du 2 au 21 juillet prochain au Théâtre des Lucioles. Sur l'Aglo de B, les inscriptions au transport scolaire 2024-2025 sont ouvertes jusqu'au 30 juin en version papier et jusqu'au 15 juillet pour les inscriptions en ligne. Les familles recevront les cartes courant août pour les inscriptions réalisées avant cette date. Après cette date, la réception de la carte avant la rentrée n'est pas garantie. Ceci étant obligatoire pour pouvoir prendre le car, il est donc vivement conseillé de respecter les délais. La soirée jaune et noire du FCB ce mardi sur le thème football et reconversion à la Sapinière de Bressuire. Animée par Vincent Nori, les échanges s'articuleront autour d'Éric Guéry, ex-international et ex-coéquipier de Zidane, Stéphane Grégoire, ex-joueur du FCB ayant plus de 200 matchs en Ligue 1 à son actif, Vincent Rotureau, ex-entraîneur du FCB, responsable adjoint du centre de formation de Nantes et de l'Orne avant Guingamp, et Jean-Philippe Faure, qui totalise plus de 450 matchs chez les pros. Nous aurons bien sûr l'occasion d'y revenir. Les joueurs de Palais ont rendez-vous samedi à Mauléon pour la première finale de la Coupe des Deux-Sèvres en individuel, pour un sport pratiqué habituellement en équipe. Cette fois-ci, les joueurs s'affronteront en 1-1 à un événement organisé par le Palais 79 avec le nouveau club mauléonais sous l'égide du comité départemental du sport en milieu rural. Le président André Landry nous détaille les spécificités du Palais Fonte sur plomb en individuel.
Partie en 13, donc attribution du maître avant de commencer par pile ou face. Et la particularité, c'est que le joueur qui va marquer le point devra donner le maître à l'adversaire pour donner la chance aux deux joueurs, exactement. Normalement, quand on commence la partie avec le maître, on a plus de chances de coller le petit que partir en deuxième position, donc voilà, et partir en 13 avec trois palais, ça peut aller très vite. On a choisi la salle Sainte-Anne à Mauléon car c'est un grand complexe, et puis on peut installer toute une intendance extérieure pour tout ce qui est restauration, consommation. C'est plus agréable quand il fait beau aussi. Cette compétition, elle est ouverte aux licenciés du CD 79, mais elle est ouverte à tous les Deux-Sèvriens et Deux-Sèvriennes de tout âge. Nous sommes là pour la promotion du Palais en Deux-Sèvres.
Le Palais 79 compte 350 licenciés répartis au sein de 9 clubs. Pour la finale de la Coupe des Deux-Sèvres en individuel, ce samedi à Mauléon, de 9h à 21h, les inscriptions sont limitées à 192 joueurs. Fin mai, il y avait 80 inscriptions. Elles sont donc toujours possibles avant la fin de la semaine. Le parcours de la 38e édition du Tour Poitou-Charentes dévoilée. Il aura lieu ce tour cycliste du 20 au 23 août. Le peloton partira des Gonds en Charente-Maritime pour Cognac. Le lendemain, les coureurs partiront de Jansac-la-Palue en Charente pour rejoindre Niort. Troisième étape, jeudi 22 août, entre Ménigoutte et Fontaine-le-Comte dans la Vienne. Fini la demi-finale matinale et le contre-la-montre individuel l'après-midi. Place à un seul chrono en ligne de 29 km. La dernière étape restera concentrée dans la Vienne entre Fontaine-le-Comte et Poitiers, une édition 2024 du TPC un peu particulière puisque son président depuis 2001, Alain Clouet, a décidé de passer la main. Son successeur sera connu après l'Assemblée Générale de l'Association à l'automne prochain.